franceinter.fr. La science de l'environnement, en partenariat avec reporter.net, le quotidien de l'écologie.
La Chine qui ferme donc ses portes aux exportations de déchets, les conséquences vont être globales. Depuis le début de l'année, en effet, les entreprises chinoises de traitement et de recyclage n'acceptent plus ou quasiment plus de déchets. Un véritable électrochoc pour l'Europe et les États-Unis qui exportent plus de la moitié de leurs déchets plastiques et papier vers ce pays. On discute des conséquences à court et à long terme avec nos invités, Axel Villard.
Oui Mathieu, nous sommes avec Hervé Kempf, notre partenaire du magazine reporter.net, comme tous les lundis, bonjour.
Bonjour Maxel.
Axel.
Non, c'était commenter... Mathieu et Axel en même temps. Ah, non, c'est voilà. Maxel, c'est pour les deux, c'est normal.
J'ai compris. Et pour commenter cette décision chinoise, nous sommes au téléphone avec Roland Marion. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable adjoint du service production et efficacité matière à l'ADEME, en charge des questions d'éco-conception, durée de vie et de recyclage. Alors, pour quelle raison est-ce que la Chine a mis fin à ses importations de déchets?
Alors il y a sans doute un petit peu de pression liée au contexte géopolitique de la Chine, mais surtout, et je pense qu'on peut s'en féliciter, c'est surtout une bonne nouvelle d'un point de vue global, parce que la Chine va s'organiser pour collecter ses propres déchets, les recycler et les réutiliser dans son propre outil industriel. Donc d'un point de vue global et général pour l'environnement, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Alors quels déchets étaient envoyés vers la Chine depuis l'Europe et les États-Unis?
Il se trouve que la question du transport des déchets est une question un peu globale et le déchet, aujourd'hui c'était du plastique, du papier, métaux ferreux, non ferreux, ferraille. Il s'agit en termes de déchets d'une bourse mondiale, donc on envoyait en particulier beaucoup de plastique qui, dans le contexte de ce qu'on est en train de réaliser en France, va peut-être poser à court terme certains problèmes.
Alors oui, concrètement, qu'est-ce que ça va changer? Ça veut dire qu'il va falloir qu'on apprenne à recycler efficacement notre plastique?
Mais ça fait déjà assez longtemps que l'ensemble des politiques publiques et des initiatives convergent pour massifier de plus en plus de plastique à destination du recyclage, donc les sortir des poubelles grises pour les mettre à destination du recyclage. Et par-dessus ça vient se surimposer aujourd'hui la question de la Chine qui ferme ses frontières et donc une masse encore plus importante de déchets qui vont rester sur nos territoires et qu'on va devoir trier, régénérer. Et surtout, et c'est sans doute un des grands défis, pouvoir réutiliser dans un système industriel en tant que matière première de recyclage en substitution de matière première vierge.
Est-ce que ça a été un choc pour l'Europe justement de faire face à cette problématique venant de Chine?
Bon, c'est évidemment une question qui va poser, qui va devoir appeler des réponses industrielles puisque aujourd'hui on produit par exemple en France 3 500 000 tonnes de déchets plastiques, on arrive à en collecter 1 100 000 tonnes. Et puis, on en régénère sous forme de matière première de recyclage 590 000 tonnes. Ça veut dire qu'on avait à peu près 600 000 tonnes de déchets qui partaient avant régénération à l'export. C'est autant de tonnes qu'il va falloir réintégrer dans nos propres process industriels. Donc, c'est sans doute une difficulté à court terme, parce qu'il va falloir investir dans des centres de tri, dans des unités de régénération. Mais sur le terme, c'est sans doute une grande opportunité, celle d'être finalement producteur de matières premières issues du recyclage, de récupérer nos propres déchets pour leur donner encore plus de valeur ajoutée et les revendre sur un marché mondial.
Alors ça, c'est à long terme. Est-ce qu'à court terme, on va brûler des plastiques qu'on pourrait recycler ou alors les envoyer vers d'autres pays?
Ça veut dire qu'à court terme, il va falloir trouver effectivement des solutions intermédiaires. Donc, quand vous dites brûler des déchets plastiques, ça veut dire en fait valoriser sous forme énergétique des plastiques en substitution de pétrole. Donc, c'est quand même pas si mauvais que ça, même si on préférerait les régénérer sous forme de matières premières. Il y a aussi une partie du flux, sans doute, qui va être exportée de nouveau. Il va falloir trouver des exutoires. Et puis, il faut aussi s'inscrire dans une trajectoire plus de long terme, une trajectoire où, vous savez, il y a encore quelques années, les déchets, on essayait de s'en débarrasser, ils nous cassaient les pieds, ils nous enquiquinaient. Aujourd'hui, on est en fait en train de se dire que les déchets, c'est de la matière première et qu'il faut lui donner une seconde vie. Et on peut devenir, nous, producteurs de matières premières issues du recyclage, donc de matières premières de seconde vie. Et ça, c'est une opportunité pour les années suivantes. Et cette question de la fermeture des frontières chinoises, en ce sens, constitue une certaine opportunité.
Donc là, vous parlez d'une façon assez positive, finalement, face à la situation. Si on arrive à s'adapter facilement, on peut en tirer des bénéfices.
Oui, il y a deux grands bénéfices. Le premier bénéfice, qui est global, parce que l'environnement a finalement assez peu de frontières, c'est que la Chine, en s'intéressant à ses propres déchets, va collecter tous les déchets qui, aujourd'hui, chez eux, sans doute, allaient vers des issues moins favorables pour l'environnement, telles que les rejets en mer. Ça, c'est le premier grand impact favorable. Et le deuxième, c'est que nous sommes nous-mêmes maintenant de plus en plus producteurs de matières premières. Donc d'un point de vue industriel et d'un point de vue environnemental, c'est sans doute à terme une très bonne chose.
Est-ce que tous les plastiques sont recyclables?
On peut recycler aujourd'hui à peu près toutes les résines plastiques. Simplement parce que quand on les collecte, c'est qu'ils étaient avant des produits et donc c'est des matières qui ont une vie réelle dans un produit dans un produit donné. Et alors, ceux qui sont trop souillés, peut-être, dans un premier temps, peuvent avoir une valorisation énergétique. C'est pas très grave dans la mesure où ça vient en substitution de produits pétroliers qui sont des matières non renouvelables. Les efforts d'éco-conception, les efforts de recherche et de développement vont de plus en plus amener à recycler effectivement de plus en plus de plastique et de plus en plus de résine plastique. Parce que on parle de plastique en globalité, mais il y a une grande diversité, une grande multitude de résines et toutes ne sont pas complètement équivalentes vis-à-vis du recyclage.
Vous dites elles sont toutes potentiellement recyclables. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est pas le cas pour tous les plastiques. Quelle proportion des plastiques produits chaque année est réellement recyclée?
Aujourd'hui, on utilise 4 500 000 tonnes de plastique à peu près en France. On produit 3 500 000 tonnes de plastique déchets et on en collecte 1 200 000 tonnes. Voilà. Là-dessus, on a 300 000 tonnes qui sont réellement utilisées dans notre industrie. Donc, c'est finalement assez faible. C'est l'ordre de 20 à 25% en fonction du chiffre du taux de base qu'on prend. La grande gageure, ça va être surtout de faire muter l'industrie utilisatrice de la matière première vierge vers la matière première de recyclage. Et ça, ce sera une grande difficulté pour les années qui viennent, parce que il s'agit d'un pan de l'industrie entière qui est assez loin du contexte du déchet, qui est peu intéressé par ces questions-là, qui va devoir réussir à intégrer dans son process, et ça nécessite de la recherche, du développement, mais aussi de l'investissement, qui va devoir intégrer le fait que demain, ils vont devoir s'approvisionner en matière de recyclage à la place de matière vierge. Et ça, ce sera une grande difficulté.
Roland Marion, est-ce qu'il y a d'autres candidats au recyclage à la place de la Chine là, qui pourraient se manifester assez rapidement pour accueillir sur leur terre justement tous ces déchets?
Il y aura certainement des candidats pour accueillir des déchets peu recyclés, peu valorisés. Je pense que notre intérêt à nous, c'est de garder nos déchets, de leur donner de la valeur en les régénérant, en leur donnant une valeur véritablement équivalente à la matière vierge, et à ce moment-là seulement, la vendre sur un marché mondial, parce que c'est là qu'on crée de la valeur. C'est là qu'on résout au mieux les questions environnementales et c'est là qu'on met notre industrie française qui est quand même de pointe à ce niveau-là sur le devant de la scène internationale.
Il y a parmi ces déchets qui sont envoyés en Chine ou qui étaient envoyés en Chine des matières moins nobles que le plastique. J'imagine que si on les exporte, c'est parce qu'il y en a certaines, on ne veut pas les traiter sur notre territoire. Quels sont ces déchets?
La Chine importait jusqu'à présent du papier, donc les plastiques, on vient d'en parler, et puis aujourd'hui, elle a décidé de durcir drastiquement. En réalité, elle n'a pas réellement fermé ses frontières. Elle a dit maintenant, les déchets que je vais pouvoir importer sont des déchets qui doivent répondre à des normes de qualité qui sont très très élevées. Et donc, on aura du mal à les exporter. Mais tout ça se joue dans un équilibre économique, et c'est l'équilibre économique qu'il faut réussir à trouver. Si il devient aujourd'hui économiquement plus rentable de régénérer ces déchets chez nous, et ben c'est ça qu'il faut faire. Et plutôt que de les exporter comme on le faisait jusqu'à présent en Chine et ailleurs, les réintégrer chez nous et puis motiver l'industrie surtout à utiliser les déchets sous forme de matières premières de recyclage.
D'un point de vue environnemental et en lien avec le réchauffement climatique, est-ce que sur le bilan carbone, on pense au transport et à la production de plastique en lui-même, est-ce que la planète va y gagner?
Ah, globalement, c'est évident que la planète va y gagner, tout simplement parce que les plastiques qui étaient jusqu'ici jetés par la consommation chinoise vont être récoltés pour avoir une seconde vie. Donc, ne serait-ce que pour ce côté-là, ça va être très positif. Sur le bilan gaz à effet de serre, je suis en difficulté pour répondre à ça, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le coût du transport, c'est rien du tout. Donc, tout l'équilibre se joue sur des équilibres économiques qui ne tiennent pas compte d'un transport qui ne coûte plus rien.
Le coût en argent, mais le coût environnemental du transport, c'est le CO2 qui est émis.
Ah, le coût environnemental, oui. C'est sûr que tous les plastiques qu'on va produire sur le territoire, à l'échelle française ou à l'échelle européenne, on préférerait les valoriser sur le territoire européen, ne serait-ce que pour éviter d'en importer. Alors, si on recycle du plastique sur nos territoires, qu'on exporte en Chine ou ailleurs pour venir apporter nous-mêmes des matières premières vierges, quelque chose, on peut dire d'un point de vue environnemental, on peut dire qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Effectivement, le moins on transportera de matières premières, qu'elles soient issues du recyclage ou qu'elles soient vierges, moins on aura d'impact sur l'environnement, aussi d'un point de vue des émissions de gaz à effet de serre.
Merci beaucoup Roland Marion pour vos précisions.
Merci.
Et Hervé, au sommaire de reporter.net cette semaine, qu'est-ce qu'on peut lire?
Eh bien, ce matin, on continue sur les déchets avec un entretien passionnant avec l'écrivain David Val, qui vient de publier Sale aux éditions Premier Parallèle, et qui observe que plus nous sommes propres, plus nous produisons de déchets. On a aussi fait un...
Il était notre invité vendredi dans l'émission, effectivement.
Ah, super, alors les auditeurs le connaissent bien, et ils pourront donc le relire. Un reportage vidéo aussi sur la manifestation de samedi à Notre-Dame-des-Landes, c'était joyeux, mais c'était aussi amorcé un vif débat sur Bure et sur les déchets nucléaires. On y reviendra parce que le dossier scientifique est lourd. Et puis on a été au colloque des énergies renouvelables, où notre journaliste a constaté que les industriels des éoliennes et du photovoltaïque sont beaucoup plus préoccupés de la croissance économique que de la protection du climat, ce qui n'est pas tout à fait pareil.
Ouais, et on peut lire tout ça donc sur reporter.net. Merci beaucoup Hervé, à la semaine prochaine, et Axel, dès demain.
À demain.
À la Une de la Science. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, les gènes et les nerfs qui servent aux mammifères et aux primates à marcher sont présents chez les poissons primitifs, en étudiant de petits traits connus pour évoluer par petits bonds sur le fond des océans. Des neuroscientifiques ont remarqué que les structures nerveuses qui soutenaient ce mode de déplacement étaient très proches de celles des mammifères à quatre pattes. Une découverte inattendue qui suggère que les structures du développement nécessaire à la marche ont évolué des millions d'années avant la première sortie de l'océan. L'état du Tuvalu ne sombre pas si vite que ça dans l'océan Pacifique, souvent présenté comme l'une des premières nation en péril à cause de la montée des eaux. L'archipel de Tuvalu dans l'océan Pacifique a grandi de 3% entre 1971 et 2014. N'allez pas croire pour autant que la montée des eaux est un mirage. Elle est bien, bel et bien deux fois plus rapide pour ces zones du globe, mais il existe également sous l'archipel un mécanisme géologique qui est jusqu'à présent inconnu et qui a permis à certaines zones de s'élever de plusieurs centimètres, notamment grâce au déplacement de sédiments dû aux tempêtes. Et puis une araignée de quelques centimètres qui peut se retourner en moins d'un huitième de seconde. Les araignées plates de la famille des Sélénopidés, dont elle fait partie, sont les championnes du retournement du règne animal. Étudiées et filmées en Californie pour leur capacité à faire volte-face sur leur proie, la technique de ces araignées est décrite en détail par les chercheurs. Les pattes arrière situées près de la proie s'ancrent dans le sol et servent de levier pour les autres pattes et le corps qui suivent la rotation. Cette technique de chasse très au point permet donc à ces araignées de se nourrir sans tisser de toile, tant leurs réflexes sont efficaces et précis. Et vous avez même une vidéo qui est à voir sur la page Facebook de La Tête au Carré.